Monsieur le Président.
On a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
J'ai laissé l'appétit de Robert Navarro pour les...
De ce point de vue-là, j'ai manqué mon rendez-vous avec, avec les Français.
Rien ne va plus, la roue tourne. La présidence Sarkozy a coûté plus de 500 milliards à la France, hors le coût de la dette. Et les agences de notation de dégrader la France et de lui retirer son précieux triple A. Et alors, ça fait quoi d'être dégradé? Grâce à l'irremplaçable Bernard-Henri Lévy, la Libye s'est débarrassée de Kadhafi, mais se rapproche du génocideur soudanais recherché pour crime contre l'humanité par le tribunal international. L'insécurité redouble de vigueur, particulièrement dans le monde du travail, si bien que plus de 10 millions de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et qu'un Français sur deux gagne moins que le SMIC, notamment pour cause de travail partiel le plus souvent subi. La jeunesse est déboussolée, confrontée à la faillite totale du système scolaire, qui est devenu une véritable machine à fabriquer des ânes formatés pour regarder TF1 avec le peu de cerveau libre qui leur reste. Et j'en passe, rien ne va plus, la roue tourne. Dans quel sens, jusqu'où, à écouter dans Provoscopie en compagnie de nos invités, France Jamais pour le Front National, France Jamais, bien le bonjour.
Bonjour.
Et Marc Dufour pour le Modem. Bonjour. Salut Marc.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, j'aimerais bien avoir une réaction de votre part sur la faillite du gouvernement et les 500 milliards de dettes qui lui sont imputables. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la gestion de Sarkozy et de la faillite? Fillon l'avait dit dès 2008, la France est en faillite. Bah, effectivement, je ne sais pas si elle était en 2008, maintenant aujourd'hui, c'est clair. Alors qu'est-ce que vous en pensez?
Ça commence par moi.
Ah bah pourquoi
mais
pas.
Écoutez, je vais vous m'enlever les mots de la bouche, effectivement, puisque si actuellement la dette s'élève à près de 1700 milliards, elle était à 1100 milliards en 2004, et sous le gouvernement, et sous notamment la responsabilité de M. Sarkozy, alors ministre du Budget et des Finances, elle a explosé de 500 milliards de 2004 à 2011. Voilà, près de 47% d'augmentation. Je pense que les chiffres sont là, les faits sont là. C'est pour ça, vraisemblablement, qu'aujourd'hui, il n'est pas question de parler bilan, il n'est pas non plus question de se déterminer en tant que candidat, mais je dois quand même ajouter, même si cette analyse est bonne, qu'il y avait quand même 1100 milliards qui précédaient cette explosion de la dette. Et ces 1100 milliards, on doit ajouter notamment les 1400 milliards d'intérêts que nous avons payés depuis 1973, c'est-à-dire depuis la loi Giscard Pompidou, qui nous oblige à emprunter sur les marchés financiers internationaux et qui a rendu, qui nous a entraîné vers une explosion de la dette, de l'emprunt, des intérêts, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui nous assistons à une privatisation de l'argent public. C'est pour ça que Marine propose que nous puissions restaurer la Banque de France, qui puisse battre monnaie et que nous récupérions notre souveraineté monétaire.
Alors, Marc Dufour, quant à la gestion de Sarkozy, quant à cette dette qui, effectivement, a implosé, et François Bayrou, dès 2007, lors de la campagne présidentielle précédente, avait été pratiquement le seul à dire « il y a un problème, il faut s'arrêter là ».
Le seul. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bon, bien évidemment, quand on parle de faillite, je souscris totalement à ce terme. Et c'est dramatique, la politique qui a été menée par Sarkozy, par ses choix. D'abord, ses choix politiques et notamment son bouclier fiscal. Et le fait qu'aujourd'hui, il a réduit de manière très, très sensible les recettes de l'État sans savoir endiguer les dépenses. Et donc, il a quasiment doublé le montant de la dette durant son quinquennat. Et je pense qu'il porte une lourde responsabilité. Mais quand j'entends de l'autre côté, au niveau du Parti Socialiste, les analyses qui sont conduites, il ne faut quand même pas oublier que de 1997 à 2002, les socialistes étaient au pouvoir et qu'ils portent également une responsabilité importante sur
cette dérive.
Et je ne les ai pas entendus depuis le début du septennat s'exprimer pour autre chose que pour augmenter les dépenses et surtout pas pour les réduire. Donc je pense qu'aujourd'hui, seul François Bayrou a été, depuis le début, le gardien de cette orthodoxie financière, comme on peut l'être au niveau d'un ménage, en disant « attention, nous courons au surendettement ». Nous sommes aujourd'hui en situation de faillite parce que nous avons conduit par faiblesse la France dans une situation de surendettement.
Et bien, au-delà de cet endettement, de ce surendettement, est-ce que vous pensez ou pas que la faute en incombe à l'euro à notre monnaie unique, qui est un euro pour le moins germanisé. En fait, l'euro que nous avons n'est pas un euro, c'est un euromarque. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la faute en incombe plus à l'euro qu'à la politique menée par Sarkozy, Marc ?
Non, pas du tout. Je pense que, si vous me permettez, vous posez le problème à l'envers. Que l'on se pose la question sur devait-on faire
ça,
l'euro...
Ça, c'est quand le modèle est poli, et là, il m'a traité de con.
Devons-nous faire... est-ce qu'il fallait faire l'euro ? Oui. Mais est-ce qu'il fallait faire également une Europe économique ? Certainement. On ne peut pas faire une Europe monétaire sans mettre en place un certain nombre de principes économiques qui permettent de se garantir d'un certain nombre de dérives comme celles que l'on a connues.
Aujourd'hui,
heureusement qu'on a l'euro. Parce que voyez où serait le franc dans la situation actuelle. Et quand j'entends certains partis, et notamment le Front National, annoncer qu'il faut sortir de l'euro, parce que Mme Jamais vient de le dire là-dessus, mais je me dis que si on sortait de l'euro avec un franc au niveau où il est, et la dette en euros resterait la même, et on aurait un franc plus faible pour les rembourser, ça veut dire qu'on multiplierait par deux quasiment et la facture à payer. C'est, je dirais, surtout... Restons dans l'euro et surtout essayons de sauvegarder la situation économique de la France au sein de l'euro.
Ne pensez-vous pas que la faiblesse actuelle, justement, dans les dialogues franco-allemands, c'est le fait, justement, de la position de la France avec son endettement ? Et quand même, j'ai fait une rectification par rapport à ce qu'a dit Marc, mais la gestion de l'État français sous Jospin... la France répondait aux critères de Maastricht.
C'est exact. Non, mais c'est exact.
Donc, ce qui veut dire que c'est après...
Je n'ai pas dit ça.
C'est après que la dette...
Entre 2007 et 2012, je n'ai pas entendu le Parti Socialiste s'exprimer contre pour une réduction des dépenses. Bon, alors que le MoDem et François Bayrou, et depuis la campagne et même avant et pendant toute cette période-là, et a tiré la sonnette d'alarme sans être attendu sur la situation qui est en train de se dégrader. Il faut lui reconnaître que dans cette crise-là, qui est fondamentale pour les présidentielles actuelles, il a été, et depuis toujours, celui qui a essayé de gérer un bon père de famille et les comptes de la France, qui n'étaient gérés que pour à des visions à très très court terme et pour des problèmes électoralistes.
J'aimerais bien vous entendre, c'est sur la question de l'insécurité. François Hollande, hier au Bourget, a fait un discours qui a été minuté, 1h27. Il a même été comptabilisé, il a dit plus de 80 fois le mot égalité, enfin on s'en fout, c'est pas la question. Il a parlé, et c'est rarissime chez les socialistes, d'insécurité. Il est allé draguer, j'allais presque dire, sur les terres du Front National, ou du moins... ce qui le fut pendant de longues années. Il a oublié de parler, me semble-t-il, de l'insécurité sociale, à savoir les 10 millions de pauvres qu'il y a en France, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, là, par rapport à ça, comment est-ce que vous réagissez, non pas tant vis-à-vis de Hollande, mais vis-à-vis de la question de l'insécurité sociale, au-delà du fait des petits voyous qui vont nous voler... un autoradio ou je ne sais quoi, peu importe, quoi. De cette insécurité sociale qui quand même mine le pays et où le chômage s'est développé de façon considérable ces 5 dernières années. Alors comment est-ce que vous entendez mener une politique qui réduirait cette insécurité sociale ? Franchement, jamais, est-ce que vous avez
je suis contente que vous me donniez la parole parce que je suis passée à côté de ce fameux débat sur l'euro.
Non, on va y revenir sur l'euro.
Oui, parce que
on va y revenir un petit peu plus tard.
Bon, parce que c'est quand même un petit peu l'euro qui est la cause de ce marasme, on va dire, de cette détresse, de cette casse sociale. Et entre la politique de rigueur que certains appellent de leur vœu et la casse sociale que certains ont planifiée, je tiens quand même à faire remarquer à mon adversaire politique aujourd'hui, qu'il est quand même en plein milieu entre l'UMPS et le Parti Socialiste.
Si vous voulez vraiment être la troisième femme, que Marine Le Pen le soit, il faut arrêter d'être protestataire, il faut maintenant être une force de proposition.
Je voudrais quand même répondre à monsieur, puisqu'il faut quand même lui rappeler qu'entre Bayrou, qui a participé au gouvernement de Sarkozy, et ce dernier qui participe au gouvernement municipal du PS, il ne peut pas montrer les uns et les autres du doigt en faisant le dégoûté, comme s'il n'avait pas pris part à tout ce fiasco. Donc je pense qu'il a aussi une responsabilité. Il ne faut pas l'oublier. cette insécurité sociale, effectivement, vous faites bien de le dire, nous a entraînés là où nous en sommes et vraisemblablement dans une spirale mortifère et délétère. On a vu ce qui s'est passé en Grèce. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, mais la situation est tout aussi catastrophique. C'est pour ça que, au-delà de ces postures politiques aujourd'hui, ce qui fait le succès de Marine, c'est que justement, nous avons des solutions. Nous voulons entamer, par exemple, un plan de vigueur et non pas un plan de rigueur. Et sortir de l'euro, c'est tout simplement anticiper l'effondrement de l'euro et la casse européenne qui va entraîner tous les pays d'Europe dans...
Excusez-moi, je vous interroge, sinon je vais oublier. Pourquoi vous l'appelez, ça fait trois fois, Marine ? Vous voulez faire oublier aux gens qu'elle s'appelle Le Pen ?
Non, je ne crois pas que ce soit puisse l'oublier. Marine, peut-être parce que c'est une amie de oserais-je le dire, de plus de 40 ans, puisque j'ai plus de 40 ans, et j'ai toujours appelé Marine, oui, voilà.
Quel est le programme du Front National ?
Excusez-moi, et pour autant, c'est vrai que même sur les marchés, etc., les gens nous interpellent et nous parlent de Marine. Elle s'est fait un prénom, je crois.
Elle s'est fait un prénom.
Ouais. Bon,
mais... Qu'est-ce que c'est le plan de vigueur ? Justement, quel est le programme du Front National en direction de ces 12 millions de gens qui souffrent, nous allons dire ?
Eh bien, notamment une mesure phare qui est parfaitement... Je rappelle que quand nous avons présenté notre programme économique, jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup de critiques, mais personne n'a réussi à nous démontrer par A plus B que ce que nous avancions était stupide, en tout cas infaisable. Et notamment, une grande mesure, c'est de donner 200 euros supplémentaires à tous ceux qui gagnent en dessous de une fois et demi le SMIG, étant entendu qu'il y a un lissage qui se fera quand même sur une certaine zone. Et ces 200 euros...
Vous avez piqué l'idée à Philippe Poutou, là, du MPR.
C'est 200... excusez-moi, on y travaille depuis beaucoup plus longtemps. Ces 200 euros ne sont pas la TVA patronale que M. Sarkozy veut imposer, c'est-à-dire alléger les charges des patrons et puis faire payer aux plus pauvres un pourcentage de TVA qui va exploser,
c'est ce qu'on
qui
appelle
va alourdir...
De droite.
Oui, une TVA patronale. Nous, c'est 200 euros, c'est une cotisation que nous allons pouvoir verser en plus, supplémentaire des cotisations patronales que nous allons verser aux salariés qui toucheront moins de une fois et demie, donc le SMIG, et qui sera directement prélevée sur ce que nous appelons une contribution sociale, c'est-à-dire les 3% de droits de douane que nous allons imposer sur tous les produits qui rentreront en France. Ouais.
Écoutez, alors, moi, je réponds sur ce point-là, et puis après je parlerai sur l'insécurité sociale. Je suis désolé, mais 200 euros de plus pour tous ceux qui ont des bas salaires, etc., ça fait 20 milliards. Comment les finance-t-on ? Et j'ai regardé le programme du Front National, et les fameux 3% que vous allez pratiquer sur les produits exportés, vous allez réduire le pouvoir d'achat des gens, parce que malheureusement, ils vont payer 3% plus cher, et ne dites pas, ils vont payer 3% plus cher les produits qu'ils vont retrouver sur les rayons des supermarchés. Donc en réalité, votre programme économique ne tient pas. Madame Jamais, je peux vous l'assurer. J'aimerais parler de la TVA sociale. Tout ça, cela vient aujourd'hui. Je parlerai de la TVA sociale après, je voudrais parler de l'insécurité sociale. Et le grand problème de notre société, c'est le taux de tous ces jeunes qui sont sans emploi. Et cette insécurité, aujourd'hui, nous fait vivre dans une situation qui ne ressemble pas à la France. Il faut s'attaquer au premier problème, qui est le chômage. On ne peut pas laisser aujourd'hui tant de jeunes, tant de personnes sur le bord de la route. Et il faut, pour créer des emplois, on ne peut pas les créer effectivement, on ne peut pas distribuer de l'argent que l'on n'a pas gagné. Il faut ramener les conditions de production en France. Et c'est la raison pour laquelle François Bayrou a lancé cette idée de transfert de la production industrielle qui a quitté notre pays et revenir à une consommation qui soit une consommation de produits français et une production de biens produits en France. Si nous n'attaquons pas le problème du chômage, c'est-à-dire ce qui fait l'insertion sociale, ce qui fait la fierté de participer à une communauté sociale, etc., nous n'arriverons pas à gérer le problème de l'insécurité. Voilà. Alors sur le problème de la TVA sociale, moi aussi je suis contre la TVA sociale telle qu'elle est présentée par Sarkozy et en transférant le poids des charges sociales sur les gens. Il y a une taxe sur les mouvements financiers qui s'appelle la taxe Tobin. Eh bien affectons le produit de la taxe sur les produits financiers à la baisse des cotisations sociales parce que ça permettra de créer des emplois. Par contre, ne parlons pas de TVA sociale en faisant payer sur les biens de consommation et aux classes les plus défavorisées la couverture sociale.
Si vous voulez bien, on y reviendra un petit peu tout à l'heure justement sur la question.
Je peux quand même répondre parce que c'est pas le tout de procéder par affirmation. Moi, je vous dis, j'affirme que 200 euros, 20 milliards supplémentaires, c'est parfaitement admissible et c'est parfaitement
mais
faisable.
Vous avez raison d'affirmer, mais s'il vous plaît, madame monsieur, jamais à affirmer, tout le monde
monsieur,
a noté.
Non, non, c'est vous, je vous expose nos propositions et vous cassez avec, rageusement avec votre pied, là, mais vous ne m'avez pas donné ni de solution. Écoutez, monsieur,
madame.
Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. C'est assez sérieux, je crois, pour qu'on puisse exposer correctement.
Je le pense.
Donc, vous avez fait HEC. Vous êtes sûrement un grand économiste. Vous savez très bien comment fonctionnent les sociétés, l'économie. D'ailleurs, on l'a vu avec Air Littoral. Donc, je vous semble très mal placé, en tout cas, pour me donner des leçons d'économie de ce point de vue-là. Deuxièmement, les 3%.
Mais arrêtez, c'est minable.
Mais non, mais c'est vous, monsieur, qui êtes minable.
Parce que moi, Air Littoral, j'ai créé 2500 emplois.
Oui.
Alors, elles ont disparu, c'est vraiment dommage.
Elles ont disparu. Laissez-moi terminer.
On a créé pendant 25 ans 2500 emplois. Alors, arrêtez avec des arguments. C'est minable.
Vous perdez votre calme, monsieur.
C'est minable.
Vous perdez votre calme, monsieur. Vous perdez votre calme.
Non,
donc,
non, on ne peut
vous
plus
perdez
calme.
Votre calme. Donc, je continue. Ces 3% de droits de douane qui sont imposés, c'est vrai, nous l'avons abordé en bureau politique, vont toucher effectivement des produits, des composants. On en a parlé d'ailleurs en ce moment, notamment dans le Made in Germany, où on s'aperçoit que des composants qui viennent de l'extérieur sont assemblés en Allemagne et reçoivent le label Made in Germany. Eh bien, ça n'est pas admissible. Des pays comme l'Argentine...
Là, vous parlez de l'eau.
Excusez-moi. Non, non. Oui. Mais c'est pour ça, j'y reviens. Des pays comme l'Argentine ou le Brésil ou la Chine ou les USA le font parfaitement. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre des produits en France, ils imposent un quota de composants qui soient fabriqués dans le pays où on a la prétention de vendre des produits. Alors, deux choses. La première, si des composants viennent de l'étranger et qu'on doit les assembler en France, nous avons été catégoriques là-dessus, Marine l'a été, elle nous a dit, je préfère une entreprise étrangère qui fait travailler des travailleurs français en France, qu'une entreprise française qui fait travailler des travailleurs étrangers à l'étranger et qui vient nous vendre nos produits en France. Donc, croyez-moi que...
Ça, on l'a bien compris,
croyez-moi
vous appeliez pas le Front
le
Front National.
Le marché s'adaptera très rapidement. Et très rapidement, je pense que ça sera l'impact qui permettra de réindustrialiser le pays. C'est-à-dire que s'ils veulent vendre des produits aux Français... Eh bien, ils viendront réindustrialiser notre pays et construire en
mais
France.
Sur ce point-là,
et
je suis
monsieur,
pas en désaccord avec vous.
Je
suis en désaccord sur les droits de
douane.
Et pour
en terminer, mais justement, monsieur,
c'est
l'européiste
problème.
Que vous êtes qui a fait que les frontières ont disparu et que nous avons livré notre industrie pieds et poings liés à un marché et une concurrence internationale où les règles environnementales, salariales, sociales n'ont rien à voir et on nous ont plombé complètement et ont tué l'économie, nous ont amené dans une situation de chômage, c'est-à-dire que ces 3% de douane permettront non seulement de relancer le pouvoir d'achat de certains, revenus modestes, mais en plus incitera les entreprises à venir relocaliser leur entreprise. Croyez-moi
vous
que pour vendre, ils seront prêts à tout et ils reviendront.
Vous ne pensez pas, lorsqu'on écoute le Front National, on reçoit beaucoup de constats, que d'ailleurs tout le monde fait, hein, constater qu'il y a de la misère en France, qu'il y a des pauvres, constater qu'effectivement il serait souhaitable d'améliorer leur sort, constater qu'effectivement on perd des emplois, vouloir relocaliser, comme on dit, produire français, etc. Bon, ça c'est des constats. Mais en fin de compte, j'ai le sentiment moi, que tout repose, tout échafaudage repose sur un protectionnisme, une rupture avec un monde dans lequel effectivement on ne peut pas aujourd'hui échapper sans dommage.
Alors, juste,
mais monsieur,
justement,
je peux
justement
pas...
avant que vous répondiez, j'ai la question qui va avec, mais qui vous permettra de répondre.
Vous faites un échafaudage sur du sable.
Le Front National a été catalogué d'extrême droite depuis des années.
Oui,
et
j'ai oublié de vous reprendre là-dessus, encore une fois, en entrée.
Quoi qu'il en soit, il y a un revirement en matière économique du Front National depuis un an ou deux. Front National qui était très libéral, c'est-à-dire non-intervention de l'État dans l'économie. Et maintenant, vous êtes passé d'un ultralibéralisme à un interventionnisme quasi-soviétique. Maintenant, vous voulez faire intervenir l'État dans tous les domaines de la vie, de la société,
non,
y compris de l'économie.
Non, vous ne posez pas alors, mille questions parce que je ne pourrais pas répondre à toutes.
Mais ça va ensemble. Comment bon. Se fait-il que tout d'un coup, vous deveniez interventionniste?
Je voudrais vous répondre d'abord à la première question. Monsieur, nous ne nous contentons pas de faire des constats. Les 10 millions de pauvres, c'est vous. Je crois que tout le monde ici était d'accord pour l'admettre. Il y a de plus en plus de pauvres en France. Donc ça n'est pas moi qui fais ce constat, c'est la réalité des faits qui est incontournable. Nous ne nous contentons pas de faire des constats, puisque je viens justement de vous faire des propositions majeures du Front National qui n'agréent pas le candidat du MoDem, mais que, si selon nous, est parfaitement admissible et va donner un véritable élan. Mais quant à votre remarque, monsieur Le Bozec, nous n'étions pas ultra-libéraux. L'ultralibéralisme, c'est ce qui est entretenu aujourd'hui par l'UMPS. C'est les marchés financiers qui dirigent.
Bon,
ça, c'est l'ultralibéralisme.
Au sens politique, c'est-à-dire la non-intervention de l'État.
C'est-à-dire qu'on a sacrifié les travailleurs français, notamment sur l'autel du profit et de la, de la finance.
On vous entendait, il y a 15 ou 20 ans, vous entendez que
ce n'est pas l'ultralibéralisme, monsieur Le Bozec. C'était une certaine idée de la liberté. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, nous sortions quand même des 30 glorieuses et que le contexte économique et social n'était pas du tout le même. Et nous aspirions à ce que les entrepreneurs soient libres. Ça, c'est une chose. Mais quand tous ces entrepreneurs...
Vous savez, quand
les
entrepreneurs libres, comment ça se disait en Allemagne dans les années 30 hein.
Il n'y en a plus.
Il
n'y en a plus d'entrepreneurs. Et ils sont de moins en moins libres. Et ils sont en train de crouler sous les charges. Une petite PME, PMI, est imposée à près de 44%. Elle a un impôt sur les sociétés à plus de 22%, alors que les entreprises du CAC 40 sont taxées à peine 8%. Ça, c'est aussi une chose qu'il faudra combattre et qui fait que les forces ne sont plus régulièrement... On a empêché les PME et les PMI de se défendre correctement. Et cette idée d'une certaine liberté ne doit pas sacrifier aujourd'hui, dans le contexte économique et financier catastrophique qui est le nôtre, à... Et c'est là que je ne vois pas pourquoi vous ne voyez pas le lien. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. C'est-à-dire que notre peuple, notre nation, notre économie est en difficulté. Eh bien, il faut à ce moment-là redresser la barre de l'autre côté. Et ce souverainisme, c'est une autorité, c'est un renfort de l'État parce que, selon nous, l'État est seul, finalement, propre et habilité à pouvoir, justement, réguler, économiser d'un côté, distribuer de l'autre, etc. et donner des règles, des règles qui permettent de respecter le travail, le social, l'économie et la finance. Voilà.
Une petite question rapide pour Marc Dufour et puis le MoDem. Moi, il y a un problème que le MoDem me pose, c'est à savoir François Bayrou, le MoDem ex-UDF, a été l'allié pendant 50 ans de la droite.
Merci.
Comment pourrait-il en être autrement aujourd'hui?
L'UDF, c'est pas le MoDem, et le MoDem, c'est pas l'UDF. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même clairement reconnaître à Bayrou le fait d'avoir refusé. Son acte fondateur, c'est quand il a refusé de participer à l'UMP, qu'il a dit « si on pense tous la même chose, alors nous pensons plus rien ». Et là, en 2002, et il a constaté la fracture immédiate et avec les forces de droite. Nous restons... La différence, elle est très très simple. Et, on peut dire, c'est quoi? Il n'y a pas de centre droit, il n'y a pas de centre gauche, il y a un centre. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé et il n'y a pas que des bons d'un côté, des imbéciles de l'autre, vice-versa. Et on peut très bien travailler sur un certain nombre de choses. Nous sommes pour un libéralisme social, c'est-à-dire pour donner la liberté aux gens de pouvoir entreprendre, de pouvoir travailler, mais on n'a pas le droit de laisser des gens sur le bord de la route. Et que le problème, il faut créer des richesses, mais il faut savoir les répartir d'une manière juste. Et c'est ça le fondement du MoDem. Et le fondement du MoDem...
Oh, t'as trop écouté Hollande hier.
Le
fondement... Le mot juste et le mot égalité, c'est pas au MoDem, mais c'est au PS.
Il n'est pas exclu, c'est bien si le PS vient là-dessus, il n'est pas exclu que... Enfin, on n'a pas que des ennemis. On peut avoir des adversaires politiques sur un certain nombre de sujets, mais sur des tas de sujets, je suis en accord avec le PS. Sur d'autres, je suis en désaccord. Et ce que disait Mme Jamais tout à l'heure sur ma participation au conseil municipal, j'en suis fier parce que je pense que j'ai fait évoluer les choses et que dans un ensemble, et à partir du moment où on fait une coalition, eh bien, les idées de chacun s'ajoutent pour justement essayer de progresser. Que veut faire François Bayrou? François Bayrou veut réunir les forces du pays. Je pense qu'il faut revenir au centre du débat. La France est dans une situation qui est extrêmement grave et on n'en a pas mesuré toute la gravité parce qu'on est en situation de campagne électorale et qu'on ne dit pas tout aux Français. François Bayrou a été le premier, et vous l'avez souligné, et de rappeler qu'il y a près de 10 ans, il a commencé à en parler, ça a été le thème de sa campagne en 2007. Et aujourd'hui, tout le monde revient sur les thèmes qu'il a développés. La situation est extrêmement grave. Elle va nécessiter un effort de tous. Mais il faut redonner le moral à ce peuple. Nous sommes la nation la plus pessimiste du monde, alors qu'il y a plus malheureux que nous. Je pense qu'il vaut mieux vivre dans l'effort, en se disant ça va être difficile, se regrouper tous pour reconstruire la France, plutôt que se complaire dans la lamentation ou dans des espèces de fantasmes comme ceux qui sont développés. Mais sur le fond, on est d'accord, bien sûr qu'il faut, il faut ramener la production en France, mais il y a les moyens pour le faire, surtout pas se couper de l'Europe. Alors, surtout pas se couper de l'euro. Surtout pas fermer nos frontières par des droits de douane qui sont inadaptés.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.